aujourd'hui se cumule, on le constate, il aurait plusieurs avantages entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. C'est celui de l'ancrage dans un territoire, dans des problématiques quotidiennes qui sont très importantes et qui peuvent nourrir la réflexion parlementaire sous divers aspects.
Tous les élus partout ne peuvent pas être des élus locaux. En fait, des élus locaux, il y en a. Bien sûr, il faut être connecté avec la réalité, mais ce n'est pas en cumulant 3, 4, 5 mandats qu'on va être en contact avec ses concitoyens.
Chasser le cumul des mandats, il revient au petit trot. C'est ce qu'ont tenté de faire il y a quelques jours les députés du groupe Horizon, permettre à nouveau à un parlementaire d'exercer des fonctions exécutives locales, soit comme adjoint au maire, soit comme vice-président de département ou de région. Or, si l'initiative n'a pas eu de suite, pour l'instant, elle illustre un constat partagé par un certain nombre d'élus. L'interdiction de cumuler les mandats les a coupés du terrain. Or, c'est sur le terrain, au niveau local, qu'on perçoit le mieux les ondes sismiques qui traversent la société. Et donc, c'est là qu'on est mieux armé pour y répondre. Une telle argumentation se discute évidemment, mais elle s'inscrit dans une longue liste de préconisations destinées à résorber la crise démocratique. Dans une récente enquête du CVPOF, il apparaît que 70% des Françaises et des Français ne font plus confiance à la politique. Notre système représentatif bat de l'aile. Le constat, il faut le dire, ne date pas d'hier. Alors face à cette crise de la démocratie, renforcée par la pagaille qui règne à l'Assemblée nationale depuis le début du quinquennat, l'exécutif a cherché la parade. Convention citoyenne, grand débat national. Et il a fait quelques promesses. Réforme des institutions, accès simplifié au référendum d'initiative partagée, dose de proportionnel. En attendant, c'est dans la rue et le conflit, davantage parfois que dans les urnes, que s'exerce le combat des idées. Or, il suffit d'ouvrir un atlas de l'Europe pour trouver la solution à tous nos problèmes. Une oasis démocratique où le peuple prend l'initiative de faire les lois, voire de les retoquer. Un Éden où les dirigeants n'ont pas le temps de décevoir car ils ne font que passer. Un pays, et ça fait tousser Catherine Tricot, un pays où la culture du compromis a valeur de loi sacrée, la Suisse, n'aurait-on pas intérêt à s'en inspirer? Évidemment, je vais commencer avec vous, Richard Verly, franco-suisse. Comment le franco-suisse que vous êtes regarde cette démocratie française et cette crise de la démocratie française? Et peut-être pour commencer, ce qu'on entendait au début, ce débat sur un retour sur le non-cumul des mandats, est-ce que ça c'est significatif d'une démocratie qui va mal?
En tout cas, une démocratie qui s'interroge et qui ne peut pas continuer comme ça. Quand vous voyez le nombre de crises, la prolifération des crises sociales, des protestations, même si je sais que la France est un pays en effervescence permanente, mais c'est quand même préoccupant de voir que, à intervalles maintenant de plus en plus réguliers, les gens descendent dans la rue, et descendent dans la rue pendant longtemps, ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils veulent, donc repartent de la rue frustrés, et donc avec encore plus de colère, donc tout ça nourrit une colère antidémocratique, à mon avis, de très mauvais augure. Donc, oui, il faut des changements. Est-ce que la Suisse, parmi d'autres, peut être un endroit où on devrait davantage regarder? À mon sens, sans doute dans deux directions. Donc d'abord, la Suisse n'est pas du tout un modèle. La taille du pays n'est pas comparable, l'histoire non plus. Et je rappelle juste une banalité, mais au fond, la culture protestante, culture catholique, c'est quand même des choses qui sont, c'est des vrais fondamentaux. Mais au-delà de ça, référendum, il me semble que tous les sondages, bien au-delà de l'enquête que vous avez citée, tous les sondages sont unanimes. Les Français voudraient davantage de référendums. À partir du moment où c'est tellement unanime, je me dis quand même que ça devrait bouger. Or, ça ne bouge pas. Alors, Emmanuel Macron a essayé, il en a parlé aux partis politiques, je comprends que ça n'a pas fonctionné, mais il me semble que ça doit changer sur le terrain du référendum.
Il avait proposé, alors on n'en est pas encore là, mais de réduire le quorum nécessaire pour ce référendum d'initiative partagée, pour que ça puisse fonctionner. Parce que pour l'instant, l'outil existe, mais il n'a jamais été utilisé.
En tout cas, cette idée référendaire, notamment sur des questions de société, me semble être, au fond, une soupape démocratique qu'on devrait être capable d'activer dans un pays comme la France, qui en plus est très demandeur de participation. Les Français aiment participer au débat politique. C'est Catherine, vous disiez tout à l'heure que la France est une nation politique et ça me semble très juste. Le deuxième élément où peut-être la Suisse peut être non pas un modèle mais un indicateur, alors là, on n'est pas dans le domaine des institutions, on est dans le domaine plutôt du tempérament, c'est la capacité à écouter l'autre. Je pense que la démocratie ne peut être en bonne santé que s'il est acté qu'on écoute l'autre avant de l'engueuler, voire avant de le discréditer. Et qu'on écoute l'autre au lendemain, surtout, d'une décision. Quand elle a été prise, on ne continue pas d'entretenir les braises pour laisser croire qu'on reviendra sur cette décision ultérieurement. Voilà, je pense que la Suisse a cette vertu, c'est qu'il y a eu des campagnes très dure. Je vais en prendre une seule très symbolique. Imaginez ce que ça donnerait en France. Un référendum sur l'interdiction de la construction des minarets dans les mosquées. Le peuple suisse a décidé d'interdire la construction de minarets, je dis pas de mosquées, de minarets, et c'est maintenant dans la Constitution. Le débat a été très dur, la campagne a été très violente. Le débat s'est arrêté le soir du vote. Tout le monde l'a accepté et on est passé à autre chose. Ça me paraît quand même assez sain.
Et en même temps, les Suisses, les citoyens suisses ont la possibilité de retoquer une loi si elle leur déplaît. Donc ça veut bien dire que le débat peut redémarrer. C'est pas si paisible que ça, la démocratie en Suisse.
Non, elle n'est pas paisible. Alors elle est très, comment dirais-je, fatigante pour notre gouvernement fédéral, puisque la Suisse est une confédération et l'essentiel, je le rappelle, des prérogatives de la vie quotidienne des gens se passent au niveau des cantons, pas au niveau fédéral. Nous n'avons un gouvernement que de 7 ministres, issus de 4 partis représentés au Parlement. Non seulement les Suisses peuvent par votation refuser des lois, retoquer des lois comme vous venez de le dire, ils peuvent même, je me tourne vers Thomas Gomard parce que son institut travaille beaucoup sur ces questions, retoquer des achats d'armes. Il nous est arrivé récemment de retoquer l'achat d'avions de chasse qui avaient été achetés, commandés à un industriel. En l'occurrence, c'était le Suédois Saab qui fabrique les Gripen. Eh bien, le peuple suisse a dit « Niet ». On a dû payer une indemnité à Saab. C'est reparti devant le gouvernement qui a quand même, vous voyez, attention à la démocratie. Le gouvernement a bien compris la leçon et il a fait voter ultérieurement une provision budgétaire avant le choix des avions pour finalement choisir des avions américains F-35. Mais il y a à nouveau une initiative pour contester cette acquisition.
Votre modestie naturelle, Richard Verli, vous empêche de dire que c'est un modèle, voire un paradis. C'est quand même un petit paradis, la Suisse, en termes de démocratie, Magali Lafourcade.
C'est pas mal, en plus, proximité et humilité, moi, ça me plaît beaucoup. Non, ce que je pense qu'il faut bien poser tout de suite, c'est que là, comme on va critiquer le fonctionnement démocratique français, je pense qu'aucun d'entre nous ici n'est pour un gouvernement autoritaire. Que ce soit bien clair qu'il n'y a pas du tout de tentation populiste. Au contraire, il faut identifier les faiblesses et puis proposer des choses. Il y a une vraie demande démocratique au sens du grain des choses, c'est-à-dire que le mot démocratie, c'est pas juste rendre aux urnes tous les 5 ans, c'est vraiment beaucoup plus que ça, et c'est ça qui est très beau dans la démocratie suisse. C'est aussi que on a une notion que pour les Suisses, l'État c'est nous. Il y a une notion d'être vraiment pris en considération. Et ça, quand on discute en France, on voit bien que il y a vraiment un regard sur les élites, sur le fait qu'il y a un déclassement et qu'on peut pas arriver à faire passer ses idées. Je crois qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron a tendu la main au peuple, alors au peuple au sens politique du terme, les gens ont été présents. C'est-à-dire qu'il y a eu le grand débat, mobilisation énorme, les cahiers de doléances, ils ont été remplis. Les conventions citoyennes, ça a passionné la population de voir ce qui allait sortir des conventions citoyennes. Bon, ça a moins marché sur le Conseil national de la refondation, voilà. Mais donc toutes ces initiatives, elles montrent qu'il y a vraiment une demande politique qui est très forte. Et pour moi, la convention citoyenne, en tout cas celle sur le climat, mais aussi celle sur la fin de vie, sont des innovations extraordinaires qu'il faut continuer à travailler.
Mais s'il y a une telle demande, Magali Lafourcade, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas institutionnellement à formaliser cette demande?
Alors déjà, moi je crois qu'on a dévoyé la pratique de la Constitution. Nos institutions ne sont pas celles, ni dans l'esprit, ni dans la lettre de la Constitution de 58. On a une application aujourd'hui de la Constitution qui n'est pas celle du général de Gaulle, même après le suffrage universel direct. On fait remonter en fait ce dévoiement où c'est le président de la République qui décide de tout. Mais non, de Gaulle, c'était la vision de la France à 30 ans. C'était pas lui qui faisait la politique, qui déterminait la politique de la nation. Il y avait vraiment une idée que il était un arbitre, pas un chef de parti. Il était au-dessus des institutions. Aujourd'hui, il y a un dévoiement. Il faudrait revenir avec une véritable lecture de l'article 8, de l'article 20, de l'article 5 de la Constitution, qui permettrait d'avoir un gouvernement qui retrouve des couleurs, qui retrouve aussi l'autonomie, qui du coup a plus de cohérence vis-à-vis du Parlement. Et du même coup, vous arrivez à recréer du contre-pouvoir. Parce qu'on a eu aussi des états d'urgence. Le glissement, cette grosse glissade qu'on voit actuellement, elle est aussi le fait que on a vécu deux états d'urgence très longs qui ont surprésidentialisé, je ne sais pas si le terme existe, le régime, et qui ont tout état de cause aussi affecté beaucoup la sincérité de la parole publique. On a eu le choc du référendum de 2005 où la parole publique, et le dernier référendum, la parole de l'opinion publique n'a pas été retenue. Les parlementaires sont passés par-dessus avec le traité de Lisbonne en 2007. Et aujourd'hui, on a aussi un questionnement permanent sur les promesses politiques promesses qui ne sont pas tenues et le problème de sincérité que Richard Varley évoquait tout à l'heure.
Alors la question de la surprésidentialisation ou de l'hyperprésidentialisation, les Suisses, eux, ils sont immunisés hein, puisque le président de la Confédération Suisse change chaque année. D'ailleurs, en ce moment, c'est une présidente qui s'appelle Viola Amherd. Elle est en poste depuis le 1er janvier, donc jusqu'au 31 décembre. Un pays comme ça où la tête de l'exécutif change chaque année, Catherine Tricot, où on peut voter 4 fois par an pour des votations citoyennes, pour des référendums. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'attirant, même si c'est évidemment pas totalement duplicable à la France?
Je suis pas sûre d'être totalement séduite, en fait, par le modèle, parce que tout le monde fait le diagnostic que ça ne fonctionne pas. Mais mon expérience, par ailleurs, je suis urbaniste et donc j'ai beaucoup de l'occasion d'avoir des rencontres avec des habitants pour des transformations urbaines dans lesquelles il y est inscrit que les habitants doivent être sollicités. Et je mesure la difficulté pour toutes ces initiatives qui sont vraiment de terrain et dans lesquelles on sollicite les habitants pour avoir leur avis sur le projet. On pourrait penser que ça concerne leur ville, leur quartier, leur bâtiment même, et que donc ça va fonctionner. Eh ben ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est très très difficile, en vérité. Je vous rejoins tout à fait, Magali, il y a eu des moments où il y a eu vraiment un engouement, au moment des Gilets jaunes, c'est tout à fait exact, et au moment de la Convention citoyenne sur le climat. C'est-à-dire des moments qui sont très politiques. C'est-à-dire des moments dans lesquels les enjeux, la crise des Gilets jaunes, a vraiment porté d'une façon assez emblématique la question politique de l'exégalité, des aspirations profondes de la société française et la crise sur, et celle sur le climat également. Mais quand il s'agit de consulter les gens sur des choses qui ne leur apparaissent pas comme très politiques et qui leur apparaissent comme un peu techniques, ce qu'elles sont aussi d'ailleurs, hein, parce que les enjeux urbains sont des enjeux très complexes, en fait, ça ne fonctionne pas. Les gens ne s'en saisissent pas.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et que si c'était davantage ritualisé, ils l'intégreraient davantage.
Quand je travaille notamment auprès de l'ANRU, c'est-à-dire les transformations sur des fois, c'est des projets qui durent 20 ans.
Agence nationale de la rénovation urbaine.
De la rénovation urbaine sont des projets qui peuvent durer 20 ans. Et sont inscrits donc des conseils de quartier, des réunions régulières avec les habitants, et nous avons assez peu de fréquentation. Et pourquoi ? Parce que en fait, nous n'arrivons pas à formaliser des alternatives qui sont de vrais enjeux et de vrais choix. Le problème, ce n'est pas la solution technique, c'est la proposition de dans quelle ville on a envie de vivre ensemble. Et tant qu'on n'est pas capable de faire ça, je pense qu'on dessèche complètement la vie démocratique. Et je le vois du point de vue des habitants, mais je le vois aussi du côté des élus qui sont tellement absorbés par les comités de pilotage technique, machin, bidule, etc., qu'en fait, leur fonction politique tend à disparaître, à s'effacer, et que donc on n'arrive pas à faire vivre ce qui serait le ressort d'une participation des habitants.
Ces difficultés que mentionne Catherine Tricot, elles existent en Suisse ou bien on arrive justement à gérer ces questions et faire participer la population massivement?
Elles existent évidemment. Alors il y a l'habitude démocratique des référendums parce qu'il faut créer une habitude. Les gens ont l'habitude d'aller voter, mais attention, il y a beaucoup de référendums sur lesquels la participation est assez faible. Ne croyez pas que les Suisses se ruent aux urnes à chaque votation. Juste, je voulais apporter une précision parce qu'elle est très importante et c'est intéressant dans le débat en français. On dit il y a une présidente suisse dont le mandat dure un an. En fait, non. Elle est présidente, elle est chef de l'État, effectivement pendant un an, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a une prééminence sur les 6 autres ministres du Conseil fédéral. La représentation de la Suisse, ça reste le Conseil fédéral, c'est-à-dire le collège de 7 ministres. Elle assume la fonction protocolaire de chef de l'État. Lorsque des moments importants surviennent, par exemple de négociations internationales, c'est elle qui va recevoir les responsables étrangers. Elle, parce qu'aujourd'hui c'est une femme cette année.
Mais elle ne peut pas prendre de décision seule.
Elle ne prend aucune décision seule et elle n'intervient dans aucun des autres départements du Conseil fédéral. À chaque fois, c'est le conseiller fédéral en charge de ce département qui continue l'officier.
Bah ça, c'est encore mieux, Thomas Gomard.
Moi, j'aime beaucoup la Suisse. Mais je pense que ça n'a pas tellement de sens de comparer le système politique suisse au système politique français. Ne serait-ce que pour le multilinguisme, ce que Richard Varley vient de rappeler. En revanche, si on essaie de trouver des points d'amélioration dans le système français, il y a un chiffre qui est quand même intéressant et qui reflète cette dimension très politique du peuple français. Il y a 500 000 élus en France, donc c'est quand même très significatif et c'est le signe d'un engagement. On a le problème de la faible participation au scrutin, mais on a ces 500 000 élus. On a une situation qui devient préoccupante avec des élus qui démissionnent en cours de mandat. pour les raisons que vous indiquiez, Catherine, c'est-à-dire la difficulté technique de plus en plus grande et puis les pressions politiques ou les pressions individuelles qu'ils peuvent subir. Et à mon avis, ça doit quand même nous conduire à une réflexion sur le statut de l'élu dans sa capacité à assumer son mandat, en particulier pour des mandats de maire qui effectivement nécessitent de plus en plus d'expertise. Et je pense qu'en fait, on a des élus peut-être trop nombreux, mais trop peu payés et sous-dimensionnés dans leur capacité à produire de l'expertise ou à être capable de tenir tête à une expertise extérieure. Deuxième point, c'est la question des référendums pour la France. Bon, il y a effectivement le précédent de 2005, à mon avis, qui est extrêmement problématique et qui explique une bonne part de la rupture entre l'opinion et le projet européen, puisqu'au fond, fondamentalement, les électeurs se sont sentis volés de leur vote et on en subit les conséquences encore 20 ans après. Mais je ne sais pas si... Alors, sur des sujets comme ça, je pense que le référendum s'impose. Sur des grands sujets, le référendum s'impose. La multiplication des référendums, ensuite, si vous voulez, moi, voter pour savoir s'il faut... je suis pas parisien, mais des SUV à Paris, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Vous voyez, si on multiplie ce genre d'initiative, d'ailleurs, ça n'a pas été un grand succès pour l'initiative de la mairie de Paris, je suis assez sceptique, en fait, sur si toute question fait l'objet d'un référendum. À mon sens, le référendum doit garder sa valeur de pouvoir trancher un nœud politique extrêmement important sur des questions décisives.
Et ça, Thomas Gomard, même si l'histoire, même si la géographie de la Suisse et de la France sont absolument différentes, pourquoi est-ce que ça pourrait fonctionner au niveau local dans un pays comme la Suisse et pourquoi ça serait si compliqué dans un pays comme la France ?
Je ne sais pas répondre à votre question. C'est probablement une différence de culture politique. On a un système qui reste quand même très centralisé, qui est l'opposé en Suisse. Est-ce qu'il y a cette demande de participer au niveau local ? Probablement, mais en même temps, l'exemple ou ce que nous rapporte Catherine Tricot va plutôt à l'encontre de cette perspective. Ce que je veux dire par là, c'est que je crains que on soit aussi face à une multiplication de référendums pour des sujets que je juge peut-être à tort, mais à secondaire. En réalité, à mon sens, le référendum par rapport à la culture politique française porte sur des sujets décisifs. Puis dernier point, je rejoindrai volontiers Magali Lafourcade sur la présidentialisation, les conséquences des états d'urgence et un mode de gouvernance qui passe beaucoup après ces états d'urgence par les conseils de défense, qui sont au fond une instance en réalité où le chef de l'État, chef des armées, n'a pas d'opposition au sens politique du terme, puisqu'il n'a que des ministres qu'il a lui-même nommés ou des hauts fonctionnaires qu'il a lui-même nommés. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif.
Richard Verlet ? Oui, ça fait écho, ce que dit Thomas Gomard, à une préoccupation récente en Suisse. La période Covid a été très mal vécue. Alors pas seulement pour des raisons de pandémie qu'on a tous vécues, mais aussi sur le plan démocratique, parce que pour la première fois de l'histoire récente, le Conseil fédéral a pris un certain nombre de mesures qu'on peut qualifier d'autoritaires, et des mesures qui n'ont pas été ensuite contestées par des initiatives ou par des référendums. Et toute une partie de la population ne l'a toujours pas digéré. C'était sans doute justifié par rapport aux circonstances, mais là, c'est un peu, je fais le parallèle avec les conseils de défense, cette idée qu'au fond, par un biais qui est celui d'un état d'urgence, il n'y avait pas d'état d'urgence en Suisse, mais d'un semi-état d'urgence ou d'un état d'urgence officieux, on contourne les règles démocratiques, ça a été très mal vécu ensuite. Je voudrais juste redire aussi qu'on ne peut pas, d'abord, penser que la Suisse est un modèle vu les différences entre les deux pays, mais aussi on ne peut pas oublier, quand on parle de démocratie directe en Suisse, le reste des institutions, à savoir que c'est un pays décentralisé au niveau des cantons et que les cantons ont l'essentiel des décisions entre leurs mains. Et on ne peut pas oublier aussi que ça reste une démocratie parlementaire où le Parlement joue un rôle décisif. Donc c'est un édifice à trois pieds.
Et j'ajouterais l'importance de la conscription. Dans le système suisse.
Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on peut concilier démocratie directe et démocratie représentative, Richard Verlet.
Absolument, on peut tout à fait concilier les deux, à la condition que les institutions recueillent, je dirais, un assentiment favorable d'une grande partie de la population, et c'est au fond ce qu'il dit la Suisse. Ça a été beaucoup dit, beaucoup de, d'observateurs des sciences politiques l'ont écrit. La Suisse, c'est d'abord un attachement dans les institutions, et c'est d'abord une confiance dans les institutions. fond. Et c'est ça qui solidifie un pays qui, finalement, n'a pas énormément de raisons d'être ensemble, puisqu'il y a des communautés linguistiques et religieuses différentes qui, à travers l'histoire, se sont même quelquefois frottées sérieusement.
Ouais, c'est d'autant plus remarquable qu'il y ait justement cette espèce de consensus sur les institutions. Magali Lafourcade.
Et bien donc, c'est justement ça qui est très précieux, qui est à regarder de près, c'est cette adhésion au système. Moi, je crois que quand on regarde la crise de la démocratie en France, c'est pas du tout une crise d'envie démocratique, c'est une crise de la démocratie représentative. Et quand on observe le discours d'Emmanuel Macron sur qui crée une concurrence de légitimité entre la foule, même si c'était plus que la foule qui était dans la rue, et la légitimité des élus.
Sur la réforme des retraites, c'est
ça ? Sur la réforme de retraite, c'était à ça que je faisais référence. On voit qu'il y a un déphasage sociologique très net entre les parlementaires d'aujourd'hui, qui est presque en miroir inversé par rapport aux catégories qu'on retrouve dans la population. Et il y a ce sentiment très fort d'une approche très top-down. Le référendum en France, on le voit de manière très plébiscitaire, avec quelque chose qui vient valider une décision qui est déjà prise et qui est prise d'en haut. Ce qui est intéressant en Suisse, c'est cette approche par le bas. C'est le fait que l'expertise d'usage du citoyen ordinaire est pris en compte, l'expertise d'être entendu. En France, l'expertise d'usage, on n'en entend jamais parler. Et ça revient ensuite au problème de qualité du débat démocratique. Et ce que disait très justement Thomas Gomard sur les conseils de défense, c'est-à-dire que est complètement squeezé, là, le débat démocratique. Et après, on a vu les 49.3, l'équivalent de un par mois en moyenne utilisé par Elisabeth Borne pendant un an et 8 mois de fonction, le 47.1, tous les outils du parlementarisme rationalisé, qui est une manière d'épuiser quand même la capacité du Parlement à débattre, à être dans autre chose que des postures. Moi, quand je vois la lenteur effectivement des lois adoptées en Suisse, on voit quand même que le fait qu'il puisse y avoir un retoquage par la démocratie directe d'une loi prise par le Parlement fait que c'est intégré par le parlementaire suisse, qui du coup mettent dans le débat les vrais sujets de fond plutôt que des sujets de personne et de qui porte quoi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça crée du consensus, ça crée du compromis et de l'adhésion au système.
Mais ça peut aussi créer du conservatisme, la lenteur, Richard Verli, la Suisse n'est pas forcément un pays finalement qui légifère tant que ça. La plupart des référendums ou des votations citoyennes se traduisent par des rejets. Ça ne bouge pas beaucoup.
Ça ne crée que du conservatisme. Naturellement, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les progrès n'ont pas lieu, ça ne veut pas dire que la législation n'évolue pas. Encore que, sur certains sujets, prenons un sujet d'actualité en France qui est la fin de vie. En Suisse, le suicide assisté existe depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quand même des sujets sur lesquels la Suisse a pu être en avance. Mais effectivement, la prime est donnée au conservatisme. Et il est donné à tous les étages, puisqu'en général, lors des rendez-vous de votation, vous avez soit des votations communales, cantonale et fédérale. Communale, ça veut dire que dans une ville comme Genève, on ne construit pas de tour depuis 30 ans, parce qu'à chaque fois que la population lui demande « êtes-vous d'accord pour la construction d'une tour ?», elle répond non. Donc après, on peut s'interroger, est-ce que c'est un bon ou un mauvais conservatisme ? Mais la réalité, c'est que fondamentalement, les gens n'aiment pas changer leur environnement, tout simplement. Et oui, le référendum, de ce point de vue, est un outil qui sécurise les conservateurs dans leurs convictions anciennes.
Catherine Tricot.
Oui, ben c'était exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est que dans ces réunions dont je parlais tout à l'heure avec les habitants, eh ben ce sont en général des gens qui ont plus de 60 ans qui y participent. Et je pense que dans la démocratie participative, autant que dans la démocratie représentative, on a un problème de faire participer la totalité de notre société dans cette diversité. Il se trouve qu'en France, on sait que la place des femmes en politique elle a mis beaucoup de temps, il a fallu en passer par une obligation par la loi de la parité, pour que les femmes enfin prennent un peu de place à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales. C'est pas complètement parfait, mais disons qu'on peut dire que de ce point de vue, ça a beaucoup bougé. Mais là, les jeunes ne sont pas présents, les gens qui sont issus de l'immigration ne sont absolument pas présents dans nos espaces délibératifs, notamment l'Assemblée nationale. Et même dans les 500 000 élus dont vous parliez tout à l'heure, cette richesse-là, on ne la retrouve pas tant que ça. Elle est, on a un groupe politique qui n'est pas complètement homogène à la société française, et je pense qu'elle ne l'est pas aussi parce que, par exemple, pour ce qui concerne les jeunes, c'est pas qu'on cherche pas à les draguer, c'est qu'ils n'ont pas envie de venir parce que la vie des partis n'est pas intéressante, parce que la politique n'est pas comprise comme celle des enjeux. C'est-à-dire que, si, en effet, vous avez raison de dire, les élus se trouvent confrontés à des problèmes, par exemple, techniques, où il faut qu'ils aient de l'expertise, mais ce qu'on attend d'eux, c'est pas seulement leur expertise, c'est leur capacité à le formuler en termes d'alternatives. Qu'est-ce que c'est? Quel est le choix que nous avons? Quels sont les enjeux que représente cette question technique? Et cette politisation, je trouve qu'on a du mal parce qu'on n'a pas tout à fait les ressorts dans notre système démocratique pour le faire vivre.
Comme Catherine Tricot, vous regardez beaucoup en disant cela, Thomas Gomard.
Je suis d'accord avec Catherine Tricot sur ce point-là et je suis également d'accord avec Magali Lafourcade sur le dévoiement du jeu institutionnel en France. C'est-à-dire que je pense qu'on a oublié qu'un président était fait pour présider et un chef de gouvernement pour gouverner et que c'est bien quand il y a des ministres qui ont autorité sur leur champ de compétences et qui représentent aussi un territoire ou un élu. Or, on est dans une situation où depuis, je ne sais pas, est-ce la présidence Sarkozy, où on a l'impression que le président de la République est à la fois Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, etc., ministre de l'Éducation. Voilà. Et je pense que c'est très problématique parce que du coup, on ne peut pas tout faire d'une part, et d'autre part, on n'a pas forcément les capteurs nécessaires.
Thomas Gomard qui est d'accord avec Catherine Tricot, qui est d'accord avec Magali Lafourcade. Vous voyez, Richard Verlic, en France aussi, on peut faire du consensus.
Absolument, à l'esprit public en tout cas. Il y a un mot que Thomas Gomard a employé qui est très important, y compris du point de vue démocratique, c'est la conscription. C'est le fait que la Suisse n'a pas aboli le service militaire. Le service militaire est toujours en vigueur, d'une manière un peu particulière, puisque vous faites votre service militaire par période, et vous ne le faites pas sur une année linéaire. Et donc, tous les citoyens suisses sont appelés à servir dans l'armée, soit dans une position protection civile, ou dans une position purement militaire. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que je ne dirais pas que l'esprit démocratique passe par la conscription. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des études sur ce sujet, mais néanmoins, il y a un moment où la communauté nationale se forge, et dans la jeunesse. Et ça, je sais, quand vous parlez à des officiers de carrière suisses, parce qu'il y en a qui encadrent les jeunes, ils vous le disent avec beaucoup de fierté, c'est le moment où on fabrique la Suisse. Ce moment où vous recevez des recrues, et pour ceux d'entre vous qui prennent parfois le train en Suisse, si vous le prenez le vendredi, vous verrez des jeunes hommes et femmes en uniforme, avec des armes, en bandoulière, sans chargeur. C'est ça aussi, la Suisse, et ça contribue sans doute au débat démocratique.
Merci Richard Verly. Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, c'est votre dernier ouvrage chez Grasset, coécrit avec François d'Alençon. Merci Catherine Tricot, Thomas Gomard et Magali Lafourcade d'avoir participé à ce nouveau numéro de l'Esprit Public, et numéro préparé comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisé par Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son Élise Leu.